La Barclay n'est pas pensée pour être terminée par le plus grand nombre, bien évidemment. Elle a été élaborée pour qu'elle se situe à la limite des capacités humaines. De sorte qu'il n'y ait que 1% des participants qui puissent, en tout cas, en venir à bout. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Le Sport à la Loupe. Alors aujourd'hui, on revient pour un nouvel épisode avec Jérôme. Salut Jérôme.
Salut Sandra.
Effectivement, là, on va traiter d'un sujet que tous les deux, et d'ailleurs, on va vous donner un petit indice. Si par exemple, j'allumais ma cigarette maintenant, ça donnerait le départ potentiellement de quelque chose.
D'un événement dont on va parler aujourd'hui.
Exactement. Parce que, effectivement, la cigarette, alors bien évidemment, c'est très dangereux pour la santé, mais cependant, c'est le point de départ d'une course qui s'appelle la Barclay.
Dont on a parlé dans l'actualité récente.
Exactement. Alors, vous allez vite comprendre pourquoi. Bien évidemment, je ne vais pas fumer maintenant, donc je vais reposer ma cigarette en tout cas. Mais effectivement, la Barclay, c'est un petit peu la course impossible.
Oui, c'est un peu un événement.
Enfin, c'est le nom qu'on donne.
J'allais dire loufoque, c'est peut-être pas vraiment le mot qui convient.
Ouais, totalement loufoque un petit peu. D'accord. Très atypique en tout cas dans le milieu des marathons, parce que ça reste effectivement dans les marathons, parce que c'est les marathons de...
L'ultra-marathon.
L'ultra-marathon, effectivement, ouais. De Barclay. Oui. Et c'est une course, en fait, de sentiers de type ultra-marathon, comme on vient de le dire, qui se fait donc dans le parc d'État de Frozen Head, donc aux États-Unis. Parce que bien évidemment, pour le concept qu'on va vous présenter, ça ne pouvait être que aux États-Unis, tout simplement. Alors effectivement, il y a à peu près 10 jours, on va dire.
Oui, c'est ça.
Ouais, 10 jours, effectivement. La Barclay est arrivée effectivement dans les médias parce qu'il y a eu, pour la toute première fois, effectivement, une femme qui a remporté, en tout cas, ce marathon de l'extrême. Jérôme vous en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Mais c'est pour ça qu'on s'était dit que c'était intéressant parce que c'est quand même une course qui est très compliquée. Pourquoi ?
Parce qu'il y a quand même pas mal de choses, tu vas nous en parler, un petit peu folle.
Exactement. C'est-à-dire qu'on est vraiment, vraiment très, très loin de toute course, même dans son process, même sur le fait de s'inscrire. C'est pas pareil. Alors, on va reprendre un petit peu depuis le début. Déjà, la Barclay, elle existe depuis 1986. Donc, c'est pas non plus une course qui, on va dire, intermédiaire. Elle est pas non plus super vieille, mais elle est pas non plus toute récente. On est quand même dans les années 80. Et c'est surtout qu'elle a un... On va dire, elle a un schéma qui a évolué au fur et à mesure parce qu'effectivement, dans le tout début, ça restait quand même une course impossible. Mais ce n'est pas pour rien non plus qu'il l'avait organisée de cette manière.
Alors justement,
manière.
J'allais te demander, c'est quoi le point de départ de cette folie en fait ?
Alors, tout simplement, alors on va dire qu'il y a une histoire assez particulière derrière, mais du coup, c'était pas forcément mon ordre, mais donc du coup, on va effectivement la changer. Elle a été imaginée par deux hommes. Donc, et notamment un qui est très très central hein, dans l'organisation. Donc Gary dit Lazarus Lake Cantrell, donc principalement le fondateur de cette course, mais également aidé par son ami Carl, donc dit également Road Dog Hen pour son nom de famille. Et en fait, c'est à la suite de la fuite d'un prisonnier. Donc c'est là où déjà c'est assez marrant. Donc d'un prisonnier du pénitencier de l'État de Brucey Mountain, donc bien évidemment aux États-Unis. Et en fait, il a pris la fuite en 1967. Donc le fugitif c'est James Earl Ray. Alors peut-être que ça vous dit quelque chose tout simplement parce que c'est la personne qui a assassiné Martin Luther King. Donc grand nom en tout cas dans l'histoire. Et il a parcouru 8 miles dans les bois. Donc 8 miles, c'est à peu près 12,9 kilomètres. En 55 heures à peu près.
Donc assez lent, entre guillemets.
Alors, plutôt lent. Oui. Alors je ne sais pas s'il avait encore ses chaînes aux pieds.
Oui.
Ou,
un boulet, oui.
Ou un boulet, ou s'il avait en tout cas quelque chose. Mais Cantrell, lui tout simplement, a dit « Mais en 55 heures, mais moi j'aurais fait un 100 miles. » Donc déjà, on va dire, un petit peu arrogant le garçon. Et ça va aussi se concrétiser par la suite, en tout cas, de comment il l'a organisé. Mais en tout cas, c'est par rapport à ça. Et il s'est dit, bah, tiens, pourquoi pas, effectivement, dans ces cas-là, organiser un ultra-marathon, un marathon. Enfin, à l'époque, c'était effectivement pas les distances qu'on a aujourd'hui. Mais quelque chose dans les bois pour justement un petit peu aller montrer, en tout cas, à ce prisonnier que, entre guillemets, ce qu'il a fait, c'était vraiment pas grand-chose. Donc, 1986, donc c'est quand même quelques années après, hein. Vu qu'on rappelle, hein, 1967 pour cette fuite. En 1986, on va faire d'abord la course actuelle. C'est 100 miles. comme il l'a dit,
un peu une distance,
les 100 mètres.
On va dire standard dans l'ultramarathon.
Exactement, c'est à peu près 160,9 km, mais qui comprend 60 000 pieds, donc 18 288 mètres, de dénivelé positif.
C'est vraiment là qu'elle se distingue d'autres courses.
Exactement, parce que pour un petit ordre d'idée, c'est comme si on gravissait deux fois l'Everest. Donc je vous laisse imaginer que déjà une fois, c'est pas simple. On l'a jamais fait aussi nous. Mais voilà, donc c'est quand même très particulier. Et en fait, cette course, ces 100 miles, doivent être effectuées en moins de 60 heures. Donc ça, c'est le format actuel que l'on a, en tout cas aujourd'hui, et qui existe depuis 1996. Cependant, avant, c'était quasiment impossible. De 1986 à 1995, il n'y a eu aucun vainqueur. Mais tu nous en parleras bien évidemment un peu plus tard. Mais aucun vainqueur. Donc en fait, c'est pour ça que pendant tout ce temps, en fait, cette course a évolué dans son schéma, autant dans ses distances que dans le temps, dans le temps qu'ils ont surtout à faire. Alors, je vais vous faire un petit... Je vais vous montrer un petit peu ce qu'était l'impossible, tout simplement. Donc, en 1986, il n'y a eu que 13 participants. C'était 50 miles. Donc, à peu près 80,5 km en 24 heures.
Ah oui.
Bien évidemment, il y a eu zéro finaliste. Hein, personne n'a franchi, en tout cas, cette ligne dans les temps. En 1988, on est sur 55 miles. Donc, 88,5 km à faire en moins de 36 heures. Pareil.
Impossible.
Impossible, mais il y a quand même eu un vainqueur. Premier vainqueur, il s'appelle donc, alors surnommé Frozen, Ed Furlow, qui en 32 heures, 14 minutes et 50 secondes a effectivement fait les 55 miles.
Donc c'est vraiment le premier qui a fini la Barclay.
Exactement. Alors la Barclay dans son,
oui, dans sa version,
dans sa version entre guillemets originelle, oui, oui. À l'époque, donc 55 miles en 36 heures. D'autres, après, il y a eu d'autres vainqueurs, bien évidemment. 5 en 90, 10 en 91, 2 en 92, 11 en 93, 1 en 94. Alors là, moi, j'en parle de cela parce qu'effectivement, c'est dans un schéma qui était donc, du coup, celui d'avant.
Et Jérôme, courte, on va dire.
Exactement. Et Jérôme vous parlera, bien évidemment, de toute cette génération qui est arrivée après pour justement cette Barclay qui existe aujourd'hui. Mais cependant, en 1989, Gary Cantrell annonce bah qu'au final, boucler ces trois tours, ce que ça représentait à peu près trois tours, bah, c'est juste un fun run. Et le fun run, d'ailleurs, est resté. Parce que
le terme reste.
Exactement, parce que le fun run, c'est effectivement le fait de boucler trois tours. Trois tours, c'est environ 12-13 km, on va dire. Et pour véritablement vaincre la Barclay, il s'est dit, bah, il faut la terminer. 110 miles, donc 177 km, en moins de 48 heures. Ce qui est énorme. Je ne sais pas si vous essayez d'imaginer. Puis, en moins de 50 heures. Et à partir donc, du coup, de 1994, étant donné que personne, bien évidemment, la finissait, on est passé effectivement sur ce nouveau format.
Bon, finalement, le format qui est actuellement, c'est un petit peu le format où c'est à la fois quasi impossible, mais pas complètement, en fait.
Exactement.
Voilà. Si on peut résumer.
Exactement. C'est-à-dire qu'on peut effectivement, en tout cas, il y a une possibilité de réussite.
Très faible, mais qui existe.
Exactement. Contrairement à avant, oui. Où, entre guillemets, il y avait quasiment zéro possibilité de réussite, mais il n'y avait que des possibilités d'échec. Et donc, du coup, impossible, mais toujours possible. En 1995, lors de sa 10e édition, parce qu'on était déjà donc, du coup, à 10 éditions, la Barclay, donc, du coup, prend ce que l'on connaît aujourd'hui, les 100 miles et les 60 heures. Enfin, moins de 60 heures. Parce qu'à 60 heures et une seconde, ça ne fonctionne pas.
Malheureusement, on n'est pas dedans.
Exactement. Donc ça représente environ ces 5 tours, donc c'est des boucles. 5 tours qui représentent donc du coup ces 160,9 km. Pourquoi elle s'appelle la Barclay? Parce que d'ailleurs elle s'appelle ni la Cantrell, ni par rapport à son autre ami avec qui il l'a fondée. Tout simplement parce que son voisin à Cantrell s'appelle Bill Barclay et c'était un fermier de profession, mais également c'était celui avec qui il allait courir.
D'accord.
Donc du coup, il lui a donné le nom. Mais je trouve que ça sonne très bien Barclay en fait.
Ouais.
Bon, en même temps, la Cantrell, ça aurait pu très bien marcher également. En général, on a plutôt l'habitude que les noms soient pris soit des noms de famille, soit des villes, etc. Vous le savez très bien si vous avez écouté nos autres podcasts. Mais en tout cas, voilà pourquoi elle s'appelle la Barclay aujourd'hui. En tout cas, c'était aussi un peu un hommage à son binôme
de course,
tout à fait. Parce qu'apparemment, les gens aiment bien courir à plusieurs. Alors, justement, cette course, on va dire par tous ces aspects. Ce qui est important, c'est son dénivelé, son temps, également ses conditions, qui sont à l'intérieur, que je vais pouvoir vous, vous détailler un petit peu plus. Et c'est ce qui la rend justement très atypique et assez difficile, entre guillemets, à conquérir. Alors, est-ce qu'on part directement dans les fun facts ?
Allons-y.
C'est parti. Déjà, sur la Barclay, il n'y a que 40 participants qui sont admis chaque année. Pas un de plus, pas un de moins. C'est 40 maximum. Comment on s'inscrit à la Barclay ? Eh bien, c'est extrêmement compliqué. La Barclay n'a pas de site internet. En fait, c'est un petit peu comme une chasse au trésor. Alors, une chasse au trésor qui, on va dire, qui est relativement simple malgré tout. Mais il faut contacter en fait le fondateur, donc Cantrell, trouver son adresse mail et surtout trouver le bon jour pour envoyer un mail. Et en fait, c'est une candidature, c'est-à-dire qu'il faut envoyer une lettre de motivation.
Mais il faut l'envoyer donc à une date précise.
À une date précise, d'accord. À un jour précis, donc c'est-à-dire qu'il faut retrouver toutes les informations. Donc en général, tout simplement pour avoir l'adresse mail, il faut aller chercher les anciens coureurs. Mais par contre, et après, il faut trouver le bon jour, c'est-à-dire un mail qui n'est pas envoyé le bon jour, c'est une candidature qui n'est pas prise. Donc c'est là où justement ça commence déjà à être un peu atypique et on peut voir que Cantrell, il est très particulier dans sa manière de voir les choses. Ouais. Et ça, c'est pas grand-chose par rapport à ce qui va arriver après. Donc, une fois effectivement qu'ils ont trouvé donc, le jour, l'adresse mail, etc., ils envoient une lettre de motivation, comme s'ils postulaient en fait pour quelque chose. Et s'ils sont admis, ils reçoivent, eux, une lettre de condoléances.
Ah oui, parce que forcément, ce qui les attend va être
exactement,
funeste.
Entre guillemets, pour leur dire, bah, malheureusement, vous allez aller dans quelque chose qui va être très très compliqué. On ne sait pas trop si vous allez vous en sortir ou pas. Donc ça, c'est déjà l'inscription et l'acceptation sur la course. Également, une fois qu'ils ont reçu leur lettre de condoléances, ils doivent signer une décharge légale où ils se portent garant de tout problème sur la course. Qu'est-ce qui est écrit dans cette décharge légale ? Alors, ça m'a fait beaucoup rire, mais c'est là où on voit quand même l'excentricité du garçon. Si je suis assez bête pour tenter la Barclay, je mérite d'être tenue pour responsable de toutes les conséquences de cette tentative, fussent-elles financières, physiques, mentales et autres.
Donc là, vraiment, on sort totalement d'un circuit de course homologué, on va dire.
Alors, clairement, de toute façon, elle n'est pas homologuée. Oui, ouais. Et effectivement, ce qui est fait, en fait, que nous sommes sur une course sans assistance, que nous sommes sur une course sans point de santé, sans point de soins. Alors, je vous rassure, il y a quand même deux buvettes seulement sur le parcours, mais bon, on vous l'a dit, c'est des boucles, donc forcément ils le retrouvent à plusieurs reprises, mais ça n'empêche, je sais pas à quel temps il fait là-bas, mais en tout cas cette décharge légale, enfin j'aime beaucoup comment il amène les choses, mais c'est là où on peut voir justement que c'est très très particulier, en tout cas de se dire que l'on est assez bête par son expression pour effectivement tenter l'impossible, mais ça fait partie aussi du folklore entre guillemets voilà. De cette course a des frais d'inscription.
Ah oui,
1,60$, ce qui représente 1 cent par kilomètre. Mais c'est pas tout, parce qu'au-delà effectivement de payer ces 1,60$, ceux qui ne sont pas énormes pour aller souffrir grandement sur pendant quelques heures, effectivement, enfin quasiment tous en au moins 59 heures, ça c'est sûr, oui. Les participants doivent également offrir un cadeau défini par Cantrell à Cantrell. Ça peut être une chemise, des chaussettes, un paquet de cigarettes, etc.
Et donc, s'ils n'ont pas le bon cadeau, ils ne participent pas à la course.
Exactement. Oh là là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est lui qui définit sa liste pour chaque personne. Donc, il reçoit quand même 40 cadeaux au final. Mais ça fait partie, effectivement, de la situation. Et j'ai vraiment l'impression que c'est comme si il y a une vénération autour de ce Cantrell qui mène un petit peu la danse, mais en même temps, bien évidemment, les coureurs, ils vont en connaissance de cause, hein, c'est pas tout ça. Et également, au-delà du cadeau et des 1,60$ qu'ils doivent en tout cas payer ou acheter, ils doivent, si c'est leur première participation, ils doivent également emmener une plaque d'immatriculation de leur pays d'origine ou de leur ville d'origine. Et en fait, toutes les plaques d'immatriculation sont accrochées au départ de la course.
Ça, c'est bien ça.
C'est pareil, ça fait partie du truc. Donc, on vous mettra une photo avec ces plaques effectivement, d'immatriculation. Bizarrement, il y a quand même beaucoup de plaques américaines. Mais vous allez voir qu'il y en a eu quelques françaises. Alors, je ne sais pas si on va trouver la photo ou autre, mais il y a eu quand même eu un Français qui est sorti du lot à un moment ou un autre. Mais voilà, c'est effectivement, ça fait partie en tout cas de tout ce côté atypique de cette course. Et bien évidemment, c'est que toutes ces règles sont à suivre si on veut participer à la Barclay.
En gros, c'est pas que l'aspect sportif. Quoi. Il y a
non, c'est vraiment un ensemble. Parce qu'au-delà, effectivement, du côté sportif, qui est extrêmement compliqué, hein, ça, on va pas se mentir. Personnellement, j'irai pas la tenter. Mais voilà, ça fait partie du... Il y a quelque chose. Et justement, ensuite, parce qu'au-delà des cadeaux que l'on fait à M. Cantrell, sur cette course, comme on vous l'a dit, donc c'est 5 boucles. 3 boucles de fun run, 5 boucles au total. Et les 4 premiers tours, ils ne sont pas disputés dans le même sens.
C'est pour un peu déstabiliser les coureurs, je suppose. Ouais. Encore.
Exactement. Ou je pense aussi pour apporter une difficulté.
Aussi, ouais.
Parce que je pense que ce n'est pas simple.
Oui, du coup, on ne s'habitue pas au tour.
Exactement. Donc, c'est deux dans un sens, deux dans l'autre. Et il y a un petit truc justement sur le 5e tour. Est-ce que tu peux nous dire ?
En fait, c'est une règle qui a été mise en place récemment.
Oui.
Parce qu'il me semble qu'en 2001, je crois, deux coureurs ont couru totalement en même temps toute la course. Et ils ont fini main dans la main.
Exactement.
Et donc, du coup, Lazarus Lake, pour créer encore une difficulté de plus, a interdit qu'on termine le tour final ensemble.
Exactement. Parce qu'en fait, on sait aussi que quand on court à deux, par exemple,
ça aide,
il y a une certaine motivation, on suit le rythme, il y a quelque chose. Donc, il s'est dit. Donc, c'est effectivement depuis 2003.
Donc, si deux personnes arrivent en même temps au début de l'ultime tour, elles doivent se séparer. L'un va dans un sens.
Et exactement. C'est en sens inverse pour chacun. Ils ne peuvent pas, en tout cas, courir ensemble. Donc, comme quoi, en fait, il y a quand même un côté très vicieux. C'est-à-dire qu'en adaptant...
Ils trouvent des parades, on va dire.
Non, bien sûr. Mais en fait, c'est très vicieux aussi parce que ça rend les choses compliquées. Et c'est surtout... Ouais, mais là, donc, du coup, ils vont réussir à la terminer. Mais moi, j'ai pas envie qu'ils
arrivent à la terminer. En fait, je pense que ce Lazarus Lex, dès qu'il ressent que le coureur finit trop facilement, il met des
attaques
de plus.
Non, je dirais pas trop facilement. Mais c'est que lui, en fait, quand il l'a créé, surtout, et ça sera surtout, je vous donnerai une citation juste après.
Ouais.
Mais en fait, pour lui, c'est vraiment, il a voulu créer en fait l'impossible et surtout aller vraiment très proche des limites de la condition humaine. Si vous voulez vous confronter à un vrai défi, il faut que ce soit un vrai défi. Vous ne pouvez rien accomplir s'il n'existe pas une possibilité d'échec. Signé Gary Lazarus Lake Cantrell. Donc, en fait, c'est vraiment son but. Donc, dès que ça devient effectivement qu'il y a trop de vainqueurs, et peut-être que potentiellement bientôt il va nous rechanger les règles, étant donné qu'il y a de plus en plus de vainqueurs aussi, c'est pour rendre les choses un peu plus compliquées et se dire, eh ben, on va encore aller plus loin pour aller justement frôler ces limites de la condition humaine.
D'accord.
Alors, je repars donc du coup dans mes facts. Donc là, effectivement, on vous a parlé de ces... possibilité de, en tout cas, un sens puis un autre. Et également, Cantrell donne la possibilité, la veille du départ, d'avoir en fait le plan, la carte géographique, qui va dévoiler, entre guillemets, pas mal de points et pas mal de choses et la boucle qui vont avoir, en tout cas, à faire. Parce que, donc, ils ont le droit, en tout cas, d'aller faire du repérage la veille, mais dans des terrains balisés. C'est-à-dire que c'est vraiment sur les sentiers, on ne peut pas aller à l'intérieur, etc. Donc pareil, tout est contrôlé dans le système, mais en tout cas, on peut commencer à aller voir. Également, on pourrait penser, c'est vraiment comme une course d'orientation. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun appareil électrique, électronique. Et ils ont le droit seulement donc, du coup, à une carte. Donc ils ont pu, la veille, recopier en tout cas la carte de Cantrell sur leur propre carte. Mais également, ils ont une boussole. Donc, tout se fait également. Donc, c'est aussi pendant ces 60 heures, c'est tout se fait à la boussole. C'est quand même...
À l'ancienne.
Totalement à l'ancienne. Quand on voit le personnage, ça ne m'étonne pas. Et ils ont juste, en fait, au départ de la course, ils ont une montre qui est offerte à ce moment-là où il y a, pour justement qu'elle puisse sonner en fait, les times. Parce qu'en fait, c'est pareil. Ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que c'est 5 heures. Ces 5 boucles pardon, en 60 heures sont divisées. Ça veut dire que si par exemple le premier tour n'est pas terminé en 12 heures, la personne sort.
Ah oui, donc c'est d'accord, ok.
Exactement, donc c'est 12, 24,
36,
36, 48, 60.
Ok.
Donc les fun runs par exemple, comme on le disait, c'est quand même 1, 2, 3, donc 12, 24, 36 en 36 heures.
Alors en fait, quand on atteint la fin du troisième tour, pour continuer, il faut passer en moins de 36 heures.
Tout à fait.
Mais si on termine les trois boucles en moins de 40, du coup, on a ce qu'on appelle terminer la fun run.
Exactement.
Donc voilà, c'est sa distinction.
Exactement. La fun run, à proprement dit, si on la vise qu'elle, si c'est 40 heures.
Voilà.
Mais si on va jusqu'à la fin de la Barclay, effectivement, 12 x 3, vous l'avez compris, 36. également. Donc du coup, on a parlé effectivement de ces montres. Mais par contre, quand est-ce qu'il est le départ? Parce que pareil, ça aussi, c'est un mystère. C'est-à-dire que c'est pas comme s'il y avait, bon bah venez dimanche à 10h et vous allez pouvoir commencer à...
Mettez votre dossard.
Exactement, vous allez pouvoir commencer à courir. Non, pas du tout. C'est-à-dire que la course peut démarrer entre minuit et midi. Donc bien évidemment, ils ont quand même le jour. Ils sonnent une heure avant le départ. Donc ils sonnent avec un gonk. Donc c'est comme un gros coquillage de mer. Un gonk, c'est, vous savez, celui où qu'on écoute à l'oreille pour voir justement si on entend bien la mer. Donc c'est à peu près ça, si je me trompe pas.
D'accord.
Mais en tout cas, j'ai vérifié avant et c'est ce qu'ils m'ont sorti. Donc une heure avant, et la course démarre, vous l'avez compris normalement avec mon intro, quand Cantrell allume sa cigarette. Donc en gros, je pense qu'une heure avant, on peut à peu près calculer. Donc il doit avoir tous les yeux sur lui, les 40 participants. Et dès que monsieur, en tout cas, allume son briquet pour allumer sa cigarette, effectivement, la course démarre. Et également, pourquoi aussi ils ont eu la carte avant? C'est parce que pendant justement cette course, il y a des points avec des livres où ils doivent passer, ou trouver ces livres pendant, donc du coup c'est 60 heures, trouver ces livres, arracher la page du numéro de leur dossard, pour montrer que justement ils sont passés par tous ces points qui sont en tout cas sur le parcours. Et bien évidemment, comme c'est comme ça, à chaque nouveau tour, il y a un nouveau dossard qui est donné pour qu'ils puissent après re-arracher une page. Effectivement. Donc ça veut dire qu'en fait, on est focus quand même sur du sport, quand même de haut niveau sur le principe de courir autant de temps pendant ce temps, parce que bien évidemment, hein, ils ne dorment pas, je vous rappelle. Également, on met des... Il y a un côté très ludique, il y a un côté très... avec justement ce côté où on est en boussole. Enfin, on est seulement avec la boussole. Donc, ça fait travailler quand même beaucoup de choses. Donc, elle est quand même plutôt bien pensée, même si elle est effectivement très excentrique, je dirais, dans ses process. C'est-à-dire que c'est pas... quand on va faire effectivement le marathon de New York, par exemple, bon, y a pas, c'est un peu plus simple, on va dire, pour y accéder. Mais je pense que beaucoup, du coup, ça leur plaît... Ça leur plaît aussi ce côté un peu comme ça, un peu où ils se font, je dirais un peu, ils se font un peu maltraiter par Cantrell. Mais il y a un côté assez sympa. Et donc du coup pour finir, enfin la ligne de départ et d'arrivée après est symbolisée par une barrière qui est jaune et qui est présente en fait au milieu donc du coup d'une route du parc. Et ils doivent effectivement la taper pour aussi valider chacun de leurs tours et effectivement également l'arrivée. Et pour finir, parce qu'il y en a beaucoup du coup qui ont abandonné cette course ou qui ont été en tout cas exclus de cette course du fait, comme on l'a dit tout à l'heure, des timings, des temps, etc. C'est qu'ils sonnent avec une trompette cette fois-ci. Grand musicien, hein, Cantrell, au final. Ils sonnent avec... Enfin, ils jouent de la trompette par la sonnerie aux morts lorsqu'il y a effectivement un abandon.
D'accord, il y a encore un petit rappel funeste.
Exactement, bah, dans tous les cas, déjà la lettre de condoléances après, effectivement. Donc, j'aime quand même beaucoup, même si ça peut être... On pourrait considérer que c'est assez idiot tout ça, hein, mais il y a quand même un sacré storytelling qui est derrière.
Ah oui, c'est sûr.
Il y a quelque chose qui est justement, qui rend cette course assez, assez unique en son genre, non pas par son côté sportif, certes, mais également par tout ce côté qui vraiment contribue à 100%, en tout cas, à la course. Et donc voilà, comme je vais le redire au cas où, la Barclay n'est pas pensée pour être terminée par le plus grand nombre, bien évidemment. Elle a été élaborée pour qu'elle se situe à la limite des capacités humaines, de sorte qu'il n'y ait que 1% des participants qui puissent en tout cas, en venir à bout. Et justement...
Alors justement, je pense qu'on a légèrement maintenant dépassé ce seuil de 1%. Parce que je crois que dans l'histoire de la Barclay telle qu'elle est actuellement, on est à 800 participants et 20 finishers. Donc on est un peu au-dessus des 1%, du coup.
Tout à fait. Après, parce qu'effectivement, il y a les candidatures au début, on n'accepte que 40 personnes. Voilà. Mais oui, effectivement.
Donc on peut dire
qu'il y a de plus en plus
l'être humain, en gros, relève le défi de Cantrell, on va dire. Allez.
L'être humain évolue aussi.
Aussi, oui. Le matériel.
On peut aussi le voir, par exemple, sur les marathons, où maintenant, oui, on resserre de plus en plus. Donc, forcément...
Donc, tu as parlé auparavant un peu de la, entre guillemets, la préhistoire de la Barclay avec ses versions un peu préliminaires.
Préhistoire.
Oui, mais préhistoire entre
des années 80.
Entre guillemets, évidemment.
Tout à fait.
Et donc, ce qui est assez comique, c'est que donc, dans la version actuelle, donc la vraie Barclay, c'est pas un Américain qui a fini en premier, c'est un Anglais.
Oui, c'est vrai.
Mark Williams.
Exact.
Donc, qui était le premier à faire les 5 tours de la Barclay en 1995.
On le dit, les Anglais sont partout à chaque fois dans le game.
Je vous dis dans le temps, pardon, 59 heures, 28 minutes et 48 secondes. Donc, il était à une minute, un peu plus d'une minute de temps limite, on va dire. Donc, pas mal.
59, 28 minutes ?
Oui, donc en gros, il est... Ah, pardon, oui. Non,
oui, il était à une demi-heure.
Oui, pardon, une demi-heure. Autant pour moi.
Non, mais c'est vrai que...
Je me perds dans les chiffres.
Non, mais est-ce que c'est troublant, effectivement, oui, quand oui. On les voit, on s'est dit, waouh, ouais, il lui restait pas grand-chose. Mais malgré tout, il lui restait quand même pas
grand-chose.
Tu es
meilleur que moi en maths, on a bien vu.
Non, c'est que je me suis fait la réflexion avant, en fait, où j'étais comme ça, je me disais, waouh, ouais, ils les ont vraiment à quelques minutes, mais en fait, effectivement...
Donc, il avait de la marge, une grosse demi-heure. Ensuite, il n'y a pas eu de finisher pendant pas mal d'éditions entre 96 et 2000.
Exactement, parce que justement, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'était sur l'ancien système. Et voilà. Donc, c'était vraiment pour le coup des temps qui étaient impossibles. Donc, comme on disait, en 24 heures, etc., c'est clairement pas possible. Peut-être qu'aujourd'hui, malgré tout, on pourrait le faire, je ne sais pas.
Donc, on en parlait également auparavant. Donc, en 2001, David Horton et Blackwood ont fini la Barclay ensemble. Et donc, c'est de là que la règle a changé après.
Tout à fait.
Donc, voilà. Donc ensuite, on a interdit de faire les derniers tours ensemble. Voilà. Et donc, en 2004, suite à cette nouvelle règle, on a donc deux coureurs, Mike Tilden et Jim Nelson, qui doivent donc se séparer à l'entame de l'Ultimate Tour, mais qui, malgré tout, terminent tous les deux. Donc, deux finishers de plus.
En, mais 50... en sens inverse.
57 heures, 25 et 28 pour les deux.
Pas mal, hein ?
Ouais. On a un nouveau...
Je crois d'ailleurs c'est peut-être un des meilleurs temps sur les...
À l'époque, c'était un des meilleurs temps, mais on a le record qui a été battu en 2008. Donc, Brian Robinson, un Américain, parce que là, en fait, ils sont tous Américains pour l'instant,
oui, bah,
à part le premier. 55 heures, 42 minutes et 27 secondes, donc un nouveau record
ouais,
en 2008. En 2009, on a une belle histoire. Andrew Thompson, il avait loupé 9 fois avant de réussir. Donc le garçon est très persévérant. Parce que c'est tellement une épreuve physique et mentale que pour la tenter 10 fois, il faut vraiment être un peu fou dans le bon sens du terme, on va dire.
Ouais, c'est vrai.
Et donc ce Thompson a été récompensé en réalisant donc ce finishing en 2009. En 2011-2012, on a le premier coureur à la terminer deux fois. Brett Mone, un Américain. Donc lui, c'est le premier qui réalise cet exploit incroyable à l'époque, parce qu'il y en a d'autres depuis. Mm. Et donc Brett Mone, c'est le premier qui l'a fini deux fois en 2011-2012. Et ensuite, on a vu donc, Jared Campbell qui l'a carrément lui fini quatre fois, 2012, 2014, 2016 et 2024, donc cette année.
Oui.
Et John Kelly, 2017, 2023 et également 2024 qui est un peu l'année des records.
Donc il me semble que c'est bien ça. Il y en a eu que trois qui l'ont effectivement réussi plusieurs fois.
Parce qu'en fait souvent on considère que c'est tellement dur à faire une fois que quand on la refait on imagine la douleur qu'on a vécue avant et qu'on arrête en fait. Souvent c'est un peu ce que les coureurs en fait traduisent dans leurs propos, on va dire. En 2017 on a eu une histoire assez triste avec entre guillemets. Parce que Gary Robbins est arrivé avec 6 secondes de retard. Donc 60 heures et 6 secondes.
Exactement. Mais c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ça ne fonctionne pas sur...
Mais là où c'est un peu un moindre mal, c'est qu'il a appris après qu'il aurait été disqualifié dans tous les cas. Donc, du coup,
tout à fait, parce qu'il y a eu des
erreurs de navigation.
Exactement. Ouais.
Donc du coup, un peu moins de regret d'échouer à 6 secondes, on va dire. Entre guillemets, si on peut dire.
Bah, quand même.
Événement pour nous...
Je pense qu'il y a un défi personnel aussi qui se fait quand même.
Tout à fait. On t'entend parler auparavant donc, de la France. 2023, on a donc le premier Français... Aurélien Sanchez qui termine la Barclay sous le temps des 60 heures en 58 heures, 23 minutes et 12 secondes.
Le seul Français du coup qui a réussi.
Et d'ailleurs, l'équipe Explore lui a consacré un reportage assez intéressant récemment, donc pour ceux qui veulent aller le voir.
On vous mettra le lien.
Voilà. Donc également ce John Kelly qui l'a refait avec lui donc, en 2023. Et le Belge, Karel Sab. Alors il y a une histoire assez marrante aussi entre guillemets sur lui, c'est que l'année précédente, il l'avait tenté. Mmh. Il s'était égaré dans une ville et on l'avait retrouvé en train de parler à une poubelle.
D'accord.
Parce qu'on l'a peut-être pas évoqué avant, mais on touche tellement ses limites physiques et mentales qu'on rentre dans un état second souvent.
Mais en fait, il suffit juste d'imaginer que vous dormiez pas pendant 60 heures et que dans tous les cas, les hallucinations, on le sait tous que quand on ne dort pas pendant un certain temps, en tout cas, c'est le cerveau qui nous joue des tours, donc il y a les hallucinations qui peuvent intervenir.
Petite précision par rapport au Français donc Sanchez, en 2023, en fait, il lui manquait une des pages donc des livres, mais c'était pas de sa faute. En fait, c'est un randonneur qui avait malencontreusement
arraché la mauvaise page.
Donc du coup, il a vraiment eu peur de ne pas être validé en arrivant, mais forcément que Cantrell a été compréhensif et donc lui a accordé donc le statut de finisher sur la canne.
Peut-être qu'il faudrait toujours venir avec un livre sur cette course comme ça.
On en parlait auparavant, donc 2024, c'est un peu l'année de tous les records sur la Barclay version
très belle édition,
actuelle. 5 finishers.
Ouais.
Un Ukrainien, Donc Ilor Veris, encore ce John Kelly, encore Gareth Campbell. Donc les deux qui sont pardon, Jared Campbell, deux habitués un peu de la Barclay. Un néo-zélandais, donc Greg Hamilton. Et,
mais surtout,
on en parlait auparavant, première femme de l'histoire à finir la Barclay, Jasmine Paris.
Exactement.
Mais elle n'est pas française, même si elle s'appelle Paris.
Oui.
Elle est écossaise. Donc c'est la première, première femme, pardon.
Tout à fait, et de peu, mais y a une très belle photo qu'on va également vous mettre où quand elle arrive, on voit son état d'épuisement, en tout cas à l'arrivée. Mais, et d'ailleurs, son temps, c'est en 59 heures...
30 secondes, je crois qu'à 30 secondes de la fin, il me semble.
Oui, elle est vraiment très,
non,
très
pardon,
proche.
À 1 minute 30, elle a fait 59 heures, c'est quand même... 58 minutes, 21 secondes.
Voilà, exactement.
Donc 1 minute 40.
Très, très beau... En tout cas, très très belle performance pour Jasmine.
On va parler un petit peu d'elle, donc c'est un peu un phénomène. Elle est connue pour être extrêmement discrète, notamment sur les réseaux sociaux, elle ne fait même pas du tout en avant. C'est vraiment une amoureuse de la course pure et dure. Et d'ailleurs, elle est donc vétérinaire de métier.
Ok.
Donc c'est pas vraiment une coureuse professionnelle, même si vraiment elle a des exploits incroyables. Alors, elle est connue pour être une spécialiste de ce qu'on appelle le fell running. C'est un truc bien anglais.
Et qu'est-ce que c'est ?
Alors, en fait, on s'amuse à monter sur les montagnes et à descendre le plus vite possible.
D'accord.
Donc, elle est une spécialiste de ça à l'origine.
Ça rappelle quand on court après un fromage.
Un petit peu, oui. Et donc, elle s'est mise à l'ultra-marathon en 2015, à l'ultra-trail. Et elle est connue pour avoir remporté donc, au scratch, ça veut dire donc, hommes et femmes confondus, une célèbre course, donc la Spine Race, en 2019.
Ok.
On sait qu'actuellement... Il y a vraiment beaucoup de femmes qui gagnent des courses contre les hommes. Ça devient un peu l'âne.
Bah, pourquoi pas.
Mais voilà, donc, elle, c'est vraiment donc, ce qu'elle a réalisé en 2019. Et donc, avant de réaliser la Barclay en 2024, elle avait essayé deux fois auparavant. Et je crois qu'elle avait fait, il me semble, la Fun Run en 2023. Donc, c'était
Oui, elle l'avait effectivement eu.
Donc, voilà, donc c'était pas son coup d'essai. Elle avait donc tâté le terrain un petit peu avant. Et donc, voilà, en 2024, elle a vraiment réussi un exploit incroyable
en étant
la première femme à terminer cette Barclay. Alors, on pourrait se demander... Pourquoi est-ce que les grands noms de l'ultra trail ne courent pas la Barclay ?
On peut.
Par exemple, Kylian Jornet et François Daen. Si on,
on va dire les sportifs de haut niveau et professionnels de.
Parce qu'évidemment, ceux qui l'ont terminé sont tous des sportifs de haut niveau, mais c'est pas forcément les stars de l'ultra trail, on va dire.
Non, ou c'est surtout pas ceux qui sont représentés en tant que sportifs, comme on l'entend sous des drapeaux tricolores, par exemple.
Alors, tu as évoqué auparavant forcément l'aspect sécuritaire, évidemment.
Bien sûr.
Parce que il y a quand même un danger, on va dire, qui n'est pas forcément.
À partir du moment où c'est une décharge légale, ma foi, on sait où on va.
Et alors, quand on interroge donc ces stars, telles Jornet et François Daen sur cette course, ils disent tous pourquoi pas. En gros, ils veulent pas forcément, va dire, écarter l'hypothèse, mais c'est pas forcément pour eux prévu au programme à court terme.
Non, après, c'est compliqué parce que peut-être aussi qu'il y a des problèmes avec les sponsors, avec tout ça exactement. Et il ne faut pas oublier que ces personnes-là, justement, quand on est engagé sous des contrats, ils ne peuvent pas non plus se permettre, et cette décharge est importante, en tout cas, de pouvoir signer quelque chose et de se blesser auquel cas sur ce type de compétition.
Et d'ailleurs, du coup, forcément, en termes de programmation, vu qu'elle est totalement en dehors du circuit mondial, évidemment, ça ne rentre pas forcément dans la préparation de ces coureurs-là. Donc, ça pourrait un peu...
Non. Et d'ailleurs, on ne vous a pas dit, mais elle est tout le temps située fin mars, début avril. Tout dépend effectivement de comment le calendrier tombe. Comme là, effectivement, le départ était le 20 mars.
Et le Français, donc François Daen, qui est un ultra-trailer très connu, disait également qu'il n'est pas forcément fan des courses en boucle. En fait, les trailers aiment bien aller d'un point A à un point B sans qu'il y ait de boucle. Donc, c'est également un paramètre qui le freine un peu pour... On va dire tenter l'aventure Barclay.
Bah, c'est compliqué de tourner en rond. Hein.
Voilà. Donc on verra à l'avenir si, comme tu l'as dit auparavant, 5 finishers en 2024, est-ce que Lazarus Lake va, on va dire, changer les règles et augmenter la difficulté ?
Ce sera donc du coup la 40e édition. Et donc... Si je ne me trompe pas. Donc potentiellement 2025, une année anniversaire en tout cas. Et il faut savoir quand même que Cantrell, j'ai oublié de vous dire, mais Cantrell tout à l'heure, lui, il ne sait pas s'il aurait pu la terminer. C'est aussi comme ça qu'il a fait évoluer ses schémas. Voilà. Donc, à bon entendeur, c'est que ça reste effectivement quelqu'un de très excentrique. Mais potentiellement, il ne l'a quand même pas couru. Donc, voilà. Mais aujourd'hui, il a quand même 70 ans, à l'heure en tout cas où on vous parle. Donc, c'est sûr qu'il pourrait potentiellement plus la faire. Mais il avait effectivement la trentaine quand il l'a
créé.
Quand il l'a créé avec son ami. Donc voilà, peut-être qu'il l'a tenté. On n'a pas trop réussi à trouver d'informations, mais moi j'ai quand même vu qu'apparemment, de lui-même, comme il l'aurait dit, moi-même je n'aurais pas pu la faire, la Barclay.
En tous les cas, donc pour terminer, si certains d'entre vous ont envie de la faire, forcément, les conditions d'entrée sont dures. Donc bon courage à vous pour trouver les clés.
Pour trouver les clés. Toutes les infos, mais je pense qu'en fait, dans ce milieu pour nous, ça serait compliqué, mais dans ce milieu, c'est pas si compliqué que ça.
Oui.
Cependant, peut-être que nous avons des auditeurs également qui ont déjà fait la Barclay.
Parmi
les 800. Ce serait génial, en tout cas, de pouvoir avoir vos avis, ou même, en tout cas, avoir votre avis sur ce que vous pensez de cette course. Est-ce que vous en aviez déjà entendu parler? Est-ce que vous la connaissiez? Est-ce que c'est quelque chose qui... je sais pas, quel est votre ressenti par rapport à tout ça? Est-ce que vous le voyez d'un côté folklore ou totalement idiot, soyez, on peut employer les termes. Voilà, nous on a trouvé ça sympa en tout cas de pouvoir vous partager ça, et surtout parce qu'effectivement la première femme a quand même remporté cette Barclay, donc c'était quand même aussi un petit clin d'œil bien évidemment aussi à tous les grands vainqueurs de la Barclay.
Sandra, merci.
Merci à toi également, Jérôme. Merci à vous. N'hésitez pas toujours. Hein, un petit like. Vous pouvez activer la notification. Vous pouvez vous abonner, bien évidemment, à la chaîne. Nous mettre, en tout cas, un petit commentaire. Nous, c'est avec grand plaisir qu'on vous a partagé, en tout cas, cette histoire de la Barclay. Et on se retrouve, bien évidemment, la semaine prochaine. Salut à tous.
Salut.